BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas.
Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Valence, dans la Drôme, chez King Jouets. L'enseigne veut accélérer sur la seconde main, développer la réparabilité des jouets, réintroduire de la nature et de la biodiversité dans ses points de vente. Notre reporter Philippe Indotbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons écosystème dans la deuxième partie de l'émission, parce que pour faire la bascule climatique, il va falloir toucher beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises. Comment faire pour créer des collectifs qui embarquent le plus grand nombre? On en parlera avec Éric Duberger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, et Fabrice Bonifay, président du C3D et du mouvement Gen Act. Et on terminera l'émission, comme toujours, avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va! Et on part donc aujourd'hui à Valence, dans l'un des magasins de l'enseigne King Jouets, qui veut réinventer son business model pour l'adapter au climat. Ça veut dire plus de jouets d'occasion, plus de jouets réparables et plus de nature et de biodiversité dans les points de vente. Philippe Indotbo est sur place avec les équipes de King Jouets.
Aujourd'hui, direction la banlieue de Valence, dans un magasin pas comme les autres qui sont bons l'enfance, celui de King Jouets. Dans un monde où l'industrie doit se repenser, l'enseigne française s'attaque à trois défis majeurs. Le premier, accélérer sur la seconde main. Le deuxième, c'est développer la réparabilité. Et puis enfin, transformer l'environnement de ces magasins comme celui dans lequel je me trouve. Alors on va entrer ensemble dans l'univers du jouet. Version climat. Premier défi, faire de l'occasion un réflexe. Aujourd'hui, seul un magasin sur 8 propose des jouets de seconde main. King Jouets veut donc changer la donne avec plus de magasins, plus d'espace en rayon et surtout doubler le chiffre d'affaires de l'occasion. Un virage stratégique pour produire moins et mieux.
La clé du succès dans l'occasion, c'est vraiment la collecte, le flux entrant. Plus on aura de jouets qui sont collectés, qui seront rachetés par nos experts, et plus on pourra les proposer en rayon, et ainsi les revendre et arriver à faire accroître la part de chiffre d'affaires de cette offre. Aujourd'hui, en magasin, c'est autour de 10%, de 5% pardon, du chiffre d'affaires. On aimerait porter ce chiffre à 10%. On observe, et c'est ce que les enquêtes, notamment les études menées par Circana révèlent, que ces barrières, ces freins, notamment du fait de la propreté des jouets, du fait de leur aspect qualitatif, sont vraiment en train de tomber. Une fois qu'on fait connaître le concept, que les clients puissent voir ces jouets, on s'aperçoit qu'au final, il y a très très peu de réticence, même pour offrir un jouet.
Bonjour Coralie Guédon.
Bonjour Thomas.
Merci de nous avoir accueillis dans votre magasin de Valence. Vous êtes la responsable RSE et future co-directrice générale du groupe King Jouets. Vous nous avez rejoint aujourd'hui en plateau pour qu'on vous aide à avancer sur ces défis climatiques, et notamment celui de la seconde main. Et c'est Jean-Baptiste Sultan à vos côtés de Carbone 4 qui va s'en charger. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
On rentre dans le vif du sujet. Le défi est très clair, hein, qu'a posé Coralie. Elle veut doubler le chiffre d'affaires lié à ces jouets d'occasion. Comment est-ce qu'elle peut faire?
Alors, il y a tout un panel, vous imaginez bien, d'actions qu'on peut mettre en place, mais il me semble qu'à partir du moment où là, on parle non pas d'un défi forcément de production, mais un défi d'adaptation des comportements des consommateurs. Comme tout changement d'habitude, c'est une question d'information. Et il y a vraiment un sujet de fond qu'on a beaucoup étudié sur la seconde main, qui est la seconde main, elle a quasiment que des vertus. Elle économise des ressources, elle économise des process, elle économise du transport, elle économise énormément de choses. Elle va aussi toucher des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du neuf ou au moins autant de neuf qu'ils voudraient. Donc il me semble que c'est avant tout une question de lister les arguments, d'en faire des arguments très concrets, très chiffrés, pas rester sur un argument moral. Et s'adapter à chaque interlocuteur, comment on convainc les consommateurs que oui, la seconde main, c'est désirable, ça marche, on peut prendre pour faire des cadeaux, etc. Et comment on convainc également dans les magasins de proposer au moins une partie de seconde main, de la mettre en avant pour que les gens sachent que ça existe, et ensuite pouvoir adapter le volume qu'on propose au volume de demande qu'il y a.
Ouais, alors, le mettre en avant, on l'a vu dans le reportage, vous le faites, mais donc là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que vous fassiez beaucoup de com' auprès de vos clients. C'est ça, en gros, l'idée, Coralie?
C'est ce que j'entends, oui, et c'est ce qu'on remarque aussi, c'est qu'une fois qu'on a réussi à toucher ce client, il est facilement convaincu. Ouais, ouais. Donc ce défaut de notoriété, c'est comme ça que je le traduis, c'est vraiment notre axe principal sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on investisse sur les médias de communication pour toucher les bonnes cibles sur les bons canaux aussi et leur délivrer justement le bon message et mettre en avant ces avantages de la seconde main qui sont financiers et écologiques.
Et écologiques. Alors, on retourne dans votre magasin sur le terrain avec Philippine parce que vous avez un autre défi. Là, on a parlé de seconde main, on va parler maintenant de réparabilité, réparer les jouets plutôt que de les jeter et d'en racheter des neufs.
Deuxième défi, réparer plutôt que jeter. La durée de vie moyenne d'un jouet, c'est 8 petits mois. Résultat, 100 000 tonnes de déchets chaque année. King Jouets veut inverser la tendance en poussant à la réparabilité. Mais pour ça, il faut convaincre les fabricants de changer leurs pratiques et les consommateurs de changer leurs réflexes. Mission délicate, mais bien sûr essentielle.
Tout jouet n'est pas pertinent à faire réparer. On a des petits jouets, des figurines, on ne pourra pas les réparer. Par contre, et c'est pour ça qu'on est dans ce rayon plein air et roulant, on a des jouets qui s'y prêtent beaucoup, des jouets qui ont une valeur monétaire un peu plus importante, qui ont aussi une durée d'utilisation plus importante parce qu'ils vont suivre les enfants au fur et à mesure des saisons. Et le roulant, du coup, est un très bon exemple où on pourra venir changer, par exemple, les roues d'une trottinette Glober si jamais elles sont abîmées. On a aussi des guidons par exemple. Et un des défis qu'on rencontre, c'est à la fois de pouvoir embarquer les fournisseurs sur cet enjeu-là, qu'ils puissent nous fournir les pièces détachées, et aussi faire connaître ces initiatives à nos clients. On référence les pièces détachées pour qu'ils puissent réparer, mais il faut qu'eux aussi puissent avoir ce réflexe quand un jouet est cassé, de le faire réparer avant de le mettre à la poubelle ou de s'en débarrasser.
Alors Jean-Baptiste Corallier l'a très bien dit dans le sujet, là il y a un double défi, c'est-à-dire qu'on parlait de changer les habitudes, là il faut changer à la fois celles des consommateurs mais aussi des fabricants.
Tout à fait, on est éminemment sur un sujet de chaîne de valeur, il faut remonter dans l'amont, convaincre les fournisseurs. Et à partir du moment où leur business model a toujours été je fabrique, je vends et ensuite c'est plus le reste du cycle de vie n'est plus pour moi, on peut vraiment leur faire on peut leur chiffrer à quel point c'est intéressant à la fois en termes bien sûr de climat, de ressources, etc., mais aussi en termes de chiffre d'affaires que de réussir à générer des revenus sur tout le cycle de vie, y compris en vendant des pièces détachées. Enfin, si je peux faire un parallèle, l'industrie automobile l'a très bien compris.
Ouais,
il y a toute une partie, voilà, exactement. Il y a des parallèles à faire pour faire accepter petit à petit. Et là, c'est pareil. Le besoin, une fois qu'on arrive à déclencher un besoin, une habitude chez les consommateurs, ça peut créer l'offre derrière parce qu'il y a l'opportunité pour les fournisseurs de jouets de se démarquer par là. Notre jouet n'est pas seulement bien bon marché, etc. Il est aussi réparable durable. Dans une longue durée de vie. Voilà.
Et Coralie, alors que vous disent les fabricants avec qui vous parlez? Est-ce que vous sentez qu'ils commencent à être convaincus par les arguments? Est-ce qu'au contraire, ils voient ça d'un mauvais œil? De se dire, bon, ben maintenant, plutôt que de racheter des neufs, on me demande qu'on répare mes jouets.
C'est plutôt l'approche est plutôt positive. On a de plus en plus de fournisseurs qui sont engagés. On voyait les produits Glober dans le tournage. Oui. On a aussi Smoby, qui est un acteur français qui s'engage vraiment sur ces notions de pièces détachées. Mmh. C'est plus maintenant des histoires de process, d'arriver à codifier ces pièces, à leur donner un prix de vente. C'est ces choses-là qui doivent être mises en place pour que jusqu'au bout, le client arrive à commander cette pièce détachée.
Ouais, mais ça paraît pas insurmontable quand vous le dites comme ça. Juste, pardon, parce que donc là, on parle de jouets d'occasion, on parle de jouets réparables. Est-ce qu'il y a un sujet aussi de confiance des consommateurs dans ces jouets? Ou est-ce que là-dessus, vous sentez les clients à l'aise maintenant?
C'est en train de faire son chemin. C'est sûr que le jouet, c'était le produit qu'on achète à un instant T pour Noël ou un anniversaire. Et à la prochaine occasion, j'en achète un nouveau. Et entre les deux, le jouet vit. Et quand il a fini de vivre, il est mis à la poubelle ou amené en déchetterie dans le meilleur des cas. Donc c'est vraiment une relation au jouet qui se veut plus dans la durabilité, dans cette notion que le jouet peut avoir plusieurs vies, qui est en train de changer. Et si on a des jouets en effet qualitatifs, avec des marques auxquelles on peut faire confiance, on peut changer ce rapport au jouet.
Bon, vous parlez de durabilité, on va retourner une dernière fois sur le terrain pour aller voir votre dernier défi, enfin vous en avez de nombreux, mais l'un de vos derniers principaux défis, vous voulez réintroduire la nature et la biodiversité dans et autour de vos magasins.
Troisième défi, végétaliser les zones commerciales. Les magasins King Jouet sont souvent posés sur du béton, en périphérie comme ici. L'enseigne veut transformer ces espaces, plus de nature, de haies, de fraîcheur. Le hic, c'est que les bailleurs ne suivent pas toujours. Alors King Jouet cherche à fédérer d'autres enseignes autour du projet pour verdir ensemble les zones commerciales de demain.
Là, on est à l'entrée d'un de nos magasins de jouets. C'est le magasin King Ocase de Valence et qui a cette non-particularité d'être au milieu d'un parking, donc de béton avec des voitures tout autour, et ça respire pas vraiment la nature. Et on sait que c'est important d'entretenir la biodiversité pour pouvoir arriver à faire respirer un petit peu notre planète. Et on se dit que chez King Jouet, on a 350 magasins à travers la France, donc 350 endroits où potentiellement on pourrait ramener de la biodiversité. Dit comme ça, ça paraît un peu dingue, hein, parce qu'on est vraiment du bitume, de la tôle sur nos magasins. Et pourtant, on sait qu'il y a des leviers qui sont possibles. On a déjà échangé avec des associations. Et maintenant, il faut qu'on arrive à embarquer nos bailleurs, parce qu'on n'est pas propriétaire de nos locaux. On est locataire et donc il faut qu'on arrive à motiver nos bailleurs à justement enlever un peu de ce béton, mettre un peu de pleine terre, de mettre des haies sur les parkings. Pourquoi pas d'avoir des toits végétaux qui viendraient aussi mieux isoler les bâtiments. Et ça fait vraiment partie des défis qu'on voudrait adresser pour le groupe King Jouet.
Alors Jean-Baptiste, comment motiver les bailleurs? Comment les convaincre de suivre Coralie dans cette métamorphose commerciale?
Alors, il me semble que sur le côté biodiversité, les volumes concernés pour chaque magasin, chaque parking de haies qu'on pourrait mettre, ça sera toujours mieux que rien. Mais ça va être, à mon avis, pas énorme, surtout quand on voit le type de zone dans laquelle il y a les magasins. Par contre, il y a un autre argument qui me semble pourrait être très intéressant à regarder, c'est l'argument de l'adaptation. On sait qu'il y aura de plus en plus d'aléas climatiques, des sécheresses, mais également des inondations. Et là, sur votre zone, autour de votre magasin, plus vous avez d'arbres, plus vous avez de haies, plus c'est débétonisé, mieux on supportera la chaleur sur les parkings pendant les 4 mois où il fait très chaud. Donc c'est toujours mieux de parier avec une voiture qui est devenue un four. Et également tout ce qui est fortes inondations, fortes chutes de pluie. Plus c'est débétonisé, plus il y a de végétaux, plus l'eau est absorbée et ça évite les flaques, ça évite les inondations, les dégâts dans les magasins et même dans les zones elles-mêmes. Ouais. Il me semble que ça, c'est également des arguments qu'on peut voir avec les bailleurs, parce que là, ça touche vraiment à l'infrastructure, donc à leur valeur.
Oui, oui, absolument. Et à la continuité de l'activité économique.
Exactement.
Mais ça, les bailleurs, est-ce qu'ils l'entendent ou est-ce qu'ils font des gros yeux quand vous leur parlez biodiversité et nature?
Pour l'instant, ça reste compliqué. Parce qu'en face,
ils font pas le lien, quoi.
Ça a un coût de débétoniser, ça a un coût de mettre des haies. Et pour l'instant, on n'est plus trop freiné à ça, de savoir qui doit mettre la main à la poche. Mais c'est vrai que l'argument, en tout cas, de cette résilience, de cette résistance du territoire, fait complètement sens et peut être un bon argument à mettre en face pour les bailleurs.
Ouais. Et le mot de la fin, est-ce que d'autres enseignes voient les choses comme vous? Est-ce que vous pourriez peut-être à plusieurs enseignes aller voir vos bailleurs?
J'espère, je pense. On est sur certaines zones, on a souvent les mêmes enseignes en face que nous, des Maxizo, des Kiabi. Et on est convaincus qu'eux aussi rencontrent ces problématiques, ils sont aussi sensibles à ces enjeux.
Bon, l'union fait la force, comme on dit. Merci, merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans BFM Climat. Coralie Guédon de King Jouet, Jean-Baptiste Sultan de Carbon 4. Allez, on a parlé jouets, on va parler collectif et écosystème à présent. Comment aider les entreprises à faire leur bascule climatique et comment créer des collectifs où les pionniers entraînent les autres dans leur sillage? On en parle avec deux pionniers, justement, qui ont réussi à fédérer des milliers d'entreprises derrière eux et surtout entre elles. Bonjour Éric Duverger.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Et avec vous, Fabrice Bonifay, bonjour.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable, c'est plus simple de dire C3D, et aussi depuis quelques semaines un nouveau mouvement qui s'appelle GenAct. Vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler. Éric Duverger, d'abord je commence avec vous, parce que beaucoup d'entreprises de la CEC participent à et témoignent justement de leur bascule climatique dans BFM Climat. Vous avez lancé ce mouvement il y a un peu plus de 4 ans. 4 ans plus tard aujourd'hui et sans greenwashing, quel constat vous faites? Est-ce que vous... Parce que le point de départ, c'est dire, enfin l'ambition, c'est de dire, on fait transformer les modèles d'affaires, on bascule de l'extractif vers le régénératif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que les entreprises sont à la hauteur de l'urgence climatique ou pas?
Alors, je dirais que nous, on a de la chance à la CEC puisqu'on côtoie 1400 entreprises qui sont engagées dans des parcours avec des dirigeants qui sont vraiment les têtes de pont de cette transformation. Ils vont pas dire qu'ils sont tout de suite aujourd'hui régénératifs, puisqu'on parle de la visée régénérative. En revanche, toutes les études qu'on a, les baromètres qu'on peut avoir, on s'aperçoit qu'ils sont en train d'accélérer fortement, que le cap, il est très clairement défini. C'est le cap de l'économie régénérative, c'est là où on doit aller. Et donc, il y a cet effet d'entraînement. Après, il y a deux choses. C'est que finalement, 1400 entreprises en France, c'est pas assez pour faire basculer une économie. Et puis aussi, ils disent eux-mêmes, en tant que dirigeants, ils ont cette vision, mais il manque encore de force d'entraînement à l'intérieur de l'entreprise. Ouais. C'est pour ça qu'on va parler de GenAct aujourd'hui. On a besoin d'un double mouvement à la direction des entreprises, mais aussi de tous les employés pour que ça aille encore plus vite.
Et c'est un sujet qui revient souvent dans l'émission, effectivement. Comment basculer les troupes, quoi. On peut avoir le capitaine, le chef de file qui veut avancer, mais il faut faire suivre les troupes derrière. Fabrice Bonifay, donc le GenAct, on va en parler, mais avant ça, vous avez créé en 2007, vous c'était il y a 4 ans, vous c'était il y a quasiment 20 ans, le C3D, donc le Collège des directeurs développement durable, un mouvement qui regroupe, pour faire simple, les directeurs développement durable des grands groupes français. Et vous avez dit vous-même au moment où vous avez lancé le GenAct que ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, il y a eu autant de greenwashing et aussi peu de transformation réelle?
Pour la difficulté, une difficulté évidente, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires. Tout le monde veut faire mieux au niveau environnemental, social, etc. Mais tout le monde veut continuer de gagner autant d'argent qu'avant. Et c'est pas forcément super compatible. Parce qu'il y a des investissements à faire pour changer de modèle. Des investissements qui sont énormes, mais aussi il y a des renoncements. Parce que rendre plus vert des choses qui devraient plus exister, ça sert à rien. Donc ça, les actionnaires sont pas toujours d'accord. Donc c'est tout le problème de gérer ces injonctions qui font que ça va pas assez vite. Et ça en manque aussi de méthode. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé GenAct. Parce qu'on va vouloir changer, c'est une chose. Savoir changer, c'est autre chose. Et il y a un manque de connaissances dans la transformation des modèles. On a envie de passer de modèles linéaires à des modèles permacirculaires, des modèles basés sur l'économie de la fonctionnalité, sur la haute intensité d'usage des produits. Et ça, ça s'apprend pas dans les écoles de commerce encore, hélas. Et on a...
Ça commence, mais bon, effectivement, on est au début.
Pas beaucoup. Ouais. Et donc, on a souhaité faire monter en compétences les collaborateurs des entreprises pour qu'ils s'approprient les méthodes et les outils.
Le fameux Gen Act.
C'est ça.
Alors, on va tout de suite en parler, mais juste parce que, pareil, vous aussi, à la CEC, vous avez des grandes entreprises, des entreprises connues qui participent, des entreprises de toute taille. Est-ce qu'elles se mouillent? Est-ce qu'elles jouent le jeu autant que les autres? Ou est-ce que vous les sentez un peu plus en retrait, plus timides?
Ouais, je crois qu'on peut dire qu'il y a une corrélation assez directe entre la taille de l'entreprise et la force de son engagement. Nous, à la CEC, on dit qu'il faut aller très haut, il faut monter les curseurs le plus haut possible. Quand on a une grande entreprise, comme le disait Fabrice, on a des forces, des injonctions, notamment des actionnaires, puis notamment de cette gouvernance et de la difficulté à embarquer tout le monde. Donc, elles vont plus lentement, les grosses entreprises. Et il y en a certaines, il faut se le dire, qui n'ont pas encore vraiment commencé à bouger à la hauteur des enjeux. En revanche, une plus petite entreprise, une ETI, une boîte familiale, où là, on voit la directrice ou le directeur qui a vraiment compris, là, il y a une force d'entraînement qui est assez extraordinaire. Et nous, on s'appuie sur ces exemples-là aussi pour essayer d'entraîner les autres.
Ouais. Alors, Gen Act, donc, puisque c'est ça maintenant votre mouvement, vous avez commencé à le dire. En fait, vous voulez faire la révolution de l'intérieur. C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous avez essayé de toucher le top management. C'est compliqué. Là, vous vous dites, en fait, il faut former la base, entre guillemets, enfin les salariés, pour que ce soit eux qui fassent la révolution dans leur boîte.
Ouais, c'est en fait une espèce de tenaille. Et on a quand même besoin de la direction qui a pouvoir de décision. On a besoin aussi de conscientiser les actionnaires, c'est une évidence. Mais ça peut créer de l'anxiété si les collaborateurs ne savent pas faire. Parce qu'une fois qu'on a compris, ça ne génère pas forcément une transformation. Il faut encore savoir mettre en place les transformations des processus qui permettront de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Et ça ne va pas de soi. Parce qu'il faut tout changer. Il faut changer les relations avec les fournisseurs. Il faut changer la façon dont on présente le produit au client, parce qu'on ne va plus présenter un produit pour qu'il l'achète, mais un produit pour qu'il le loue, ce qui est quand même notablement différent. Et puis surtout, il faut mettre en place dans les processus de recyclage les boucles de rétroaction qui permettront en fait à la fin de la vie du produit, de la récupération de ce produit, pour remettre en production une autre solution sans avoir à taper dans les ressources primaires. Donc ce qu'a dit tout à l'heure Eric, il faut sortir de l'extractivisme, parce que ce qui pénalise en fait les écosystèmes aujourd'hui, c'est qu'en permanence, on va chercher dans la nature des matières premières pour alimenter le système économique. Et ça, c'est délétère pour la biodiversité, c'est délétère en termes de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que transformer des matières premières avec de l'énergie et des convertisseurs, ça utilise énormément, ça génère énormément de pollution. Il faut qu'on sorte de ça. Et donc, il faut tout changer. Le marketing, passer à un marketing d'usage, de possession à l'usage, le système de production, le système de gouvernance, le système comptable. Il faut aussi, bien sûr, pouvoir rendre des comptes à Madame Nature, in fine. Donc, il faut changer aussi la composition du conseil d'administration. Ouais. Il faut tout changer. Et c'est pour ça que Gen Act est là pour faire monter en compétence les collaborateurs sur ces sujets, qu'ils puissent ensuite mettre
en place des projets. Donc, c'est une offre de formation.
Alors, c'est pas que de la formation, c'est de la formation d'abord, parce qu'on ne base rien de solide sur l'ignorance, donc il faut monter en compétences, et ensuite il faut de l'expérimentation. Donc Gen Act, c'est aussi une plateforme qui permettra à des collaborateurs conscientisés de mettre en place des modèles économiques à visée régénérative, en levant la main en disant, voilà, j'ai un projet, mais je vais pas utiliser le mécanisme du monde d'avant, je vais utiliser un nouveau modèle. Et il faut expérimenter. Et à force d'expérimenter, on peut penser que ça pourra fonctionner. Voilà.
Eric.
Alors moi j'aime bien la métaphore.
Ça rejoint pas mal ce que vous faites aussi à la CEC.
Oui, tout à fait. J'aime bien la métaphore de Fabrice sur la tenaille. Il faut que les dirigeants soient impliqués et que finalement les employés aussi soient impliqués. Je prendrai une autre métaphore, peut-être celle d'un voilier. On a besoin que la direction d'entreprise, le dirigeant, la dirigeante regarde et choisisse le bon cap. Et ce cap pour nous, c'est le cap de l'entreprise régénérative. Mais après, on a besoin que l'équipage, ils sachent mettre les voiles,
manœuvrer
pour que on aille vraiment, on se dirige vers ce cap. Et c'est tout ce savoir-faire, cette bonne compréhension de ces nouveaux modèles économiques qu'on a besoin de infuser en fait dans toutes les équipes. Mais ça concerne un acheteur, ça concerne
c'est tous les métiers,
quelqu'un qui est dans l'innovation, dans la vente et beaucoup le marketing qui définit les nouvelles offres. Donc c'est ça nos populations cibles pour Gen Act.
Et alors, on parle de faire la révolution de l'intérieur, de la base. Même si évidemment les dirigeants sont clés là-dedans. Vous avez une autre révolution que vous portez à la CEC, c'est que vous voulez que les entreprises coopèrent plutôt qu'elles soient en concurrence. Mais est-ce que c'est naturel pour elles ? La coopération plutôt que la compétition ?
Ben, faut se le dire, hein. On parlait aussi du milieu académique. Qu'est-ce qu'on apprend dans nos écoles de management ? Franchement, moi j'en ai fait une il y a quelques années, on nous apprend quand même à gagner des parts de marché contre les autres.
Mais même, même les écoles de commerce, enfin c'est beaucoup ça qu'on nous apprend.
Oui, c'est, ouais, on a cette culture-là. Or, dans le monde de demain, la clé, ça sera l'entraide, ça sera la coopération. Au niveau des citoyens, quand il y a une catastrophe naturelle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entraide. Mmh. Au niveau des entreprises, c'est la même chose. L'entraide, c'est ce qu'on appelle la coopération. Et c'est ce qu'on veut aussi avec GenAct. On veut que les employés, les citoyens, en fait, puissent commencer à s'entraider entre différentes entreprises. Tu es dans le secteur de l'agroalimentaire, à l'autre bout de la France, tu as cette problématique sur l'eau. Ben voilà ce qu'on a fait, nous, sur notre territoire. Et ça, c'est vraiment l'esprit de demain. Et c'est aussi un projet, un nouveau récit national.
Ouais. Toute dernière question pour vous deux. Il ne vous a pas échappé qu'effectivement, on est dans un climat en ce moment un peu compliqué autour du climat, justement, qu'il y a beaucoup de vents contraires. Quel message, quel mot, enfin, quels sont vos arguments pour ceux qui pourraient être découragés ou épuisés ? Parce que c'est à la fois la transition climatique, la chose la plus dure à faire, et quand en plus vous voyez que vous prenez beaucoup de murs ou que beaucoup de gens ne veulent pas la faire, bah voilà, il y a des dirigeants qui peuvent être tentés de baisser les bras. Quel message vous pouvez leur faire passer ?
Courage, ouais. Abnégation, persévérance, dignité, accessoirement, quand même. Et puis, si on veut quand même redonner du sens à ce qu'on appelle le progrès, parce qu'en fait, on a considéré que le progrès, il était forcément technologique, non. Le progrès, c'est d'assurer les conditions d'habitabilité de la planète. C'est ça, le vrai progrès. Et moi, ce que je dirais à ceux qui seraient tentés de baisser les bras par fatalisme, dire, c'est un problème qui est plus grand que nous, la solution, c'est de s'en sortir par l'action. Parce que dès lors qu'on commence à mettre en place des projets, qu'on voit l'enthousiasme des collaborateurs, parce que franchement, ça, de mettre en place ce type de modèle, ça redonne, ça rend heureux. J'ai envie de dire, au pire, ça marche, quoi.
J'ai envie de relayer le mot enthousiasme de Fabrice. On est sur le plateau de BFM. On n'a pas peur de dire que ça peut être enthousiasmant d'être en entreprise, de s'entraider entre entreprises. Et on s'en aperçoit dans la CEC. En fait, la proposition, elle est très difficile. C'est une remise en question fondamentale à la racine. En revanche, ceux qui se sont lancés, on le voit dans la CEC, dans GenAct, c'est aussi cet esprit-là, on s'aperçoit que ça les enthousiasme. Donc, faut y aller. Et effectivement, ne pas céder un peu à la panique, voire au désespoir que certains peuvent sentir actuellement.
Bon, créer un enthousiasme contagieux. Vous le faites, on essaie de le faire avec BFM Climat. Merci.
Merci beaucoup.
Merci
Thomas.
À tous les deux d'avoir été là aujourd'hui dans l'émission. Éric Duverger pour la Convention des entreprises pour le climat et Fabrice Bonifay pour le C3D et pour GenAct. Longue vie à vos mouvements. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Directeur de l'AXA Climate School. On commence votre journal, Antoine, aujourd'hui avec une grande étude participative au Royaume-Uni qui veut mesurer la baisse du nombre d'insectes dans le pays. Et alors les résultats sont très inquiétants puisque 2/3 des insectes ont disparu entre 2021 et 2024.
Eh oui Thomas, on a tous l'impression qu'il y a moins d'insectes sur nos pare-brises. Eh bien les Anglais ont décidé de quantifier tout ça. Alors comment ça marche ? Ils ont demandé à des milliers de Britanniques de télécharger une application, de déclarer leur trajet en voiture et de prendre une photo, alors pas du pare-brise, mais de la plaque d'immatriculation au départ. Et à l'arrivée, ces photos sont ensuite envoyées à des scientifiques qui les analysent et mesurent le nombre d'insectes qui s'écrasent sur ces plaques d'immatriculation. Les résultats sont très mauvais. En 3 ans, le nombre d'insectes a baissé de 63%, 2/3. C'est énorme. Alors, il faut faire attention quand on regarde des périodes de temps courtes comme ça, 2-3 ans. Mais quand même, les scientifiques interrogés sont stupéfaits par les résultats. On ne sait pas quels sont les insectes qui meurent avec cette technique, mais en volume, c'est donc significatif. On sait que les effets sur la biodiversité, les éléments qui ont un impact négatif sur la biodiversité sont nombreux. Il y a le changement climatique, la destruction des habitats, mais les scientifiques disent qu'une baisse aussi rapide sur un horizon de temps aussi court, donc ça fait quand même penser aux pesticides qu'on utilise dans l'agriculture.
Et en tout cas, le résultat est frappant. Toujours en Angleterre, Antoine, le gouvernement devrait annoncer prochainement une mesure qui pourrait faire date, pour le coup, l'obligation pour tous les logements neufs d'avoir des panneaux solaires sur leur toit.
Et oui, c'est une mesure qui pourrait changer les paysages anglais. Le Times annonce que le gouvernement s'apprêterait à rendre obligatoire les panneaux solaires sur les logements neufs dans 99% des cas. Aujourd'hui, 44% des maisons sont équipées. Alors, c'est une mesure qui avait été suggérée au gouvernement anglais il y a un an. Il l'avait refusée en disant que ça allait augmenter les coûts des constructions, ralentir aussi les chantiers dans un secteur qui est déjà en crise. Un an après, donc, d'après les indiscrétions, il change d'avis, notamment pour tenir les objectifs climat du pays qui sont très ambitieux. Alors tout ça a un coût. Pour une maison individuelle, on parle de 3 à 4 000 livres en plus au moment de la construction. Mais après, c'est des économies d'énergie. allergies, entre 500 et 1000 livres par an. C'est donc remboursé assez vite. Et tout ça devrait être assez significatif parce que le gouvernement anglais a annoncé vouloir construire 1,5 million de nouveaux logements dans le pays qui auront donc tous ou presque des panneaux solaires sur le toit.
Et pour finir, Antoine, vous nous parlez d'une forêt fantôme sur la côte est des États-Unis.
Oui, alors regardez les photos, c'est assez frappant. Les Américains appellent ça des forêts fantômes ou des arbres zombies. On est près de la baie de Chesapeake, à Washington, et il y a des dizaines de forêts comme ça sur la côte qui meurent. Le responsable, c'est la montée des eaux qui apporte de l'eau salée sur les sols, mais aussi dans les nappes phréatiques. Les arbres n'arrivent pas à survivre et ils meurent comme ça, sur pied. Alors à partir de là, il y a deux scénarios. Dans l'option positive, ces forêts deviennent des zones humides, parfois avec un peu d'aide des humains, et du coup, eh bien, la biodiversité renaît, des coquillages s'installent, des oiseaux migrateurs peuvent y trouver refuge. Ça, c'est donc le bon scénario. Dans le mauvais scénario, ces forêts peuvent devenir ce qu'on appelle des vasières, c'est-à-dire des zones remplies de vases avec extrêmement peu de biodiversité. Les écologues suivent donc ça de près pour éviter que ces arbres zombies restent morts-vivants trop longtemps.
Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale au Musée des Arts et Métiers avec Jean-Marc Jancovici. D'ici là, on garde contact sur l'appli BFM Business, en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite dans BFM Climat.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.